Tu es bon, Dieu est extraordinaire. En tant que prédicateur, on est toujours attentif à la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut vraiment dire aujourd'hui? De lourdes responsabilités, hein. Des fois, on fait un message, puis on se demande, est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que il y a autre chose aussi, que le Seigneur va attirer l'attention sur autre chose? Et donc, c'est important. Donc, il y avait une pensée par rapport à, c'est vrai, le fait de regarder au Seigneur, je pense que c'est très important. Il y a une autre pensée aussi, et c'est concernant l'église locale. Alors, c'est deux choses très différentes l'une de l'autre. Alors, peut-être, on ne va pas pouvoir développer les deux choses entièrement, parce que ça prendrait trop de temps. Et la première chose, regardons, c'est vrai, au Seigneur, hein. Ça, c'est ce que Dieu veut que nous fassions en toutes choses, et on les regarde sur celui qui nous sauve de toutes nos détresses, de tous nos problèmes. Israël a été sauvé parce qu'ils ont, dans le désert, ils ont murmuré, hein. On rappelait Nombre 21, ce chapitre-là nous parle des murmures d'Israël. Ils ont rouspété, et sur la nourriture que Dieu leur donnait, etc. Ils étaient vraiment pas contents. Vraiment une génération de pas contents, de râleurs. Et un peuple de râleurs devant Dieu, alors que Dieu est bon, tu disais, de remercier le Seigneur, hein, pour tout ce qu'il fait, et il râlait, il n'était pas content, il n'était pas heureux, alors que, en fait, c'est une question de disposition d'esprit. Et des fois, on est mal disposé, on voit les choses de travers, et on influence les autres à regarder des choses de travers. Et finalement, on n'est pas content. Et parce qu'on regarde ce qui fait mal, ce qui n'est pas accompli, ce qui n'est pas comme nous on aurait voulu, etc., etc. Sans savoir si ce que nous voulons, ça va finalement conduire au bonheur. Ce que Dieu veut pour nous, même si nous passons par des difficultés, ce sera parfait, ce sera agréable. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Et quand nous faisons notre propre volonté, nous croyons que c'est ça qui sera le meilleur, peut-être, mais on aboutit à bien souvent des défaillances, quelque chose qui n'était pas bon. En fait, on s'est trompé. Ben oui, parce que Dieu sait quel chemin nous devons utiliser, hein. Et les Israélites dans le désert ont tourné, et c'est par la foi qu'ils sont entrés dans le pays promis. C'est par la foi qu'ils sont sortis de cette honte. Dans le désert qui n'en finissait plus, comme un poisson dans son bocal qui n'en finit plus de tourner et qui est bien fou, les Israélites sont tous tombés les uns après les autres, ils sont morts dans le désert, à part Josué et Caleb. Mais ceux qui ont regardé au Seigneur, c'est-à-dire, oui, Josué et Caleb ont regardé à Dieu, ils ont prononcé, ils ont confessé les promesses de Dieu, et se sont accomplies pour eux. Malheureusement, les autres sont morts. Hein, soyons pas des gens qui choisissent ce type de regard. Et on le regard christocentrique, comme on dit, hein. Donc, regardant à Jésus-Christ. Parce que lui, il amène toute chose à la perfection. Il amène notre foi à la perfection. Et c'est dans Hébreu que nous voyons cela. Hébreu, au chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Ne nous laissons pas abattre par le découragement, mais regardons à celui qui a vaincu, qui est assis à la droite du Père. Il a remporté la victoire sur la tentation, sur le péché, sur la mort. sur les moments sombres de la vie. Il a remporté la victoire à Gethsémani. Il avait déjà remporté la victoire dans le désert, dans les 40 jours de jeûne et prière. Et il est devenu celui vers qui nous pouvons regarder. Et j'aimerais bien qu'on regarde dans Nombre, chapitre 21, nous avons dit que le peuple hébreu avait désobéi et disait ceci au verset 5. « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert ? En effet, il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. » Quelque part, on en a marre de tout ce que tu nous donnes, on veut revenir en Égypte. Alors que Dieu les avait délivrés et libérés de l'esclavage. Il y a de la joie à servir le Seigneur. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple, ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. » Moïse pria pour le peuple et l'Éternel lui dit, « Fais-toi un serpent venimeux en bronze. Fais-toi un serpent venimeux. Et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Et je vais dire que Dieu, c'est le Dieu de la deuxième chance. Ils ont gaspillé la première. Ils ont murmuré. Mais Dieu donne une possibilité. C'est de regarder au serpent en bronze que Dieu a demandé à Moïse de faire fabriquer, de mettre sur une perche. Et tous ceux qui regardaient, tous ceux qui avaient été mordus par le serpent venimeux, en regardant le serpent venimeux, ils étaient guéris, ils obtenaient la guérison. Et en fait, c'est Jésus sur la croix. Jésus sur la croix, il nous donne une deuxième chance. Nous avons murmuré, nous nous sommes égarés, nous avons eu un regard de travers, on a été vraiment contre la volonté de Dieu. Et il nous donne une deuxième, il nous tend la perche, c'est bien la manière de parler, il nous tend la perche. Regardez cette perche sur laquelle se trouve le serpent venimeux, mais en bronze. En fait, c'est la représentation de Jésus quelque part, parce que Jésus a pris le péché du monde sur la croix. Il a été fait péché pour nous sur la croix. Extraordinaire. Il a été cloué à la croix. C'est notre péché qui a été cloué à la croix. On regarde à celui qui a vaincu notre péché. Le mal du monde entier a été vaincu à la croix. Si nous regardons à la croix, nous sommes sauvés. Extraordinaire. On le voit dans 2 Corinthiens 5, 21, si vous voulez bien aller voir dans 2 Corinthiens 5, 21. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, c'est Jésus. Il n'a pas connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Vous comprenez ça? Dieu a fait devenir Jésus péché pour nous. Il n'a pas connu le péché, il n'a jamais connu le péché. C'est pour ça que Dieu a dû détourner les regards de son Fils et que le Fils a dit à son Père, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui qui n'avait jamais été abandonné, il a été fait péché pour nous. Extraordinaire, afin qu'en lui, c'est-à-dire en regardant en lui, en recevant le Christ, en mettant notre foi, en nous appuyant sur lui, en mettant toute notre confiance en lui, nous devenions justice de Dieu. Et nous devenons justice de Dieu, nous sommes justifiés. Là où nous avons échoué dans toute notre vie, nous regardons avec un regard de foi Jésus qui a été crucifié, et il a crucifié nos fautes sur le bois. C'est là où l'acte qui nous condamnait a été cloué. L'acte qui nous condamnait. Et c'est par le sang de Jésus que nous sommes purifiés, justifiés, lavés, sanctifiés. Et c'est pourquoi nous pouvons regarder à Jésus et pas nous laisser abattre par quoi que ce soit, parce que Jésus est plus fort. Il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. Amen. Alors, ayons les regards vers le Seigneur. Je voulais apporter cette pensée parce que c'était assez clair et limpide. Et alors, j'aimerais bien quand même développer ce que j'ai préparé. La question ici, ce matin, est celle-ci. Comment Jésus construit-il sa maison qui est l'Église? Comment est-ce que Jésus construit sa maison qui est l'Église? Comment est-ce qu'il fait pour construire? Il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre mon église. Rien ne pourra prévaloir contre son église, pardon. Ben, la première chose qu'il faut savoir, c'est que Jésus est le modèle de l'église. Il est notre exemple, notre modèle. Le grand modèle de l'église, c'est Jésus. Comme le tabernacle avait été construit d'après le modèle parfait qui était au ciel, eh bien, nous avons un modèle pour l'Église. Le modèle de l'Église, c'est Jésus-Christ, qui est aussi son chef. Et il est un modèle en tout. Dans Jean 13, au niveau de le modèle de l'amour, par exemple, il est le modèle de l'amour, Jean chapitre 13, verset 15, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait, en Jean chapitre 13, quand il lave les pieds de ses disciples, il montre un exemple, il montre un modèle de comment être, d'être au service des autres, de laver les pieds des autres, le maître par excellence, le seigneur des seigneurs, le roi des rois, qui se met aux pieds de chacun de nous pour nous laver les pieds, c'est extraordinaire, non? Et il dit, faites comme cela. Ça veut dire, soyez serviteurs les uns des autres. Que certains ne se fassent pas maîtres pour les autres qui deviennent leurs esclaves. C'est pas ça que Jésus dit. Mais faites-vous serviteurs les uns des autres. Aimez-vous les uns les autres. Il y a une réciprocité dans le service. Et 2 Timothée 1, 13, retiens dans la foi et la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Voilà le modèle. Dieu nous donne un modèle. Jésus est le modèle. Il nous donne sa parole. Sa parole est un modèle. Et le modèle, on le reçoit aussi par des serviteurs que Dieu utilise. Des hommes et des femmes qui annoncent la parole de vérité, qui est le modèle. La parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Donc Jésus est le modèle. La parole qui sort de sa bouche, c'est le modèle. Et c'est transmis aussi par des serviteurs. Qui sont aussi des modèles, mais qui utilisent une parole qui est parfaite, une parole puissante, une parole qui est capable de nous changer, qui doit nous modeler. Parce que le modèle, finalement, la parole de Dieu, elle veut nous modeler à l'image de Christ, nous rendre conformes à l'image du Christ. Jésus bâtit son Église avec ceux qui confessent qu'il est, et qui mettent en pratique sa parole. Donc, Jésus, il veut bâtir son église avec des disciples qui, comme Pierre, disent « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Hein? Qui dites-vous que je suis ?» C'est la grande question de Jésus, sur l'identité de Jésus. « Qui dites-vous que je suis ?» Certains disaient « Tu es un prophète, tu es Élie, etc., Jérémie. » Mais vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et je te le dis, Jésus, ce n'est pas la chair, le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et Jésus dit souvent que croire en Dieu ne suffit pas. Jacques aussi le dira, hein, l'apôtre Jacques. Et donc, on voit que Jésus demande qu'on mette en pratique la parole. Les enseignements, c'est fait pour être mis en pratique. Pas simplement loger ça dans nos têtes, mais la maison bâtie sur le sable et sur le roc le montre. Ce qui plaît à Dieu, c'est quand on met en pratique la parole de Dieu. Pourvu que vous mettiez en pratique les enseignements du Seigneur. Donc Jésus est le modèle de l'Église. Ça c'est important, c'est que je me laisse modeler par le Seigneur pour lui ressembler davantage, pour recevoir sa parole et la mettre en pratique. C'est essentiel. Ça c'est des choses vraiment basiques, mais essentielles. C'est ça le départ de l'Église, c'est qu'on se laisse modeler à la ressemblance de Jésus. Alors le grand dessein de Dieu dans au niveau de l'Église, c'est réunir sous un seul chef. Il est le chef de l'Église. Il rassemble, il réunit. Hein, on le voit. Sur la terre, il rassemble. À la Pentecôte, il y avait beaucoup de monde. Et ce beaucoup de monde a été touché par la grâce de Dieu. 3000 âmes se sont données au Seigneur suite à la prédication de Pierre. Dieu avait permis ce rassemblement lors de la Pentecôte pour que son esprit tombe à ce moment-là. Hein? Et que les âmes se tournent vers Dieu au travers de la prédication. Que les âmes se tournent par la folie de la prédication que Dieu allait bâtir son Église de cette manière. Éphésiens 1, 22 le dit, il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église. Le grand chef, je fais plus que je veux, c'est pas moi le chef, c'est pas vous le chef. Le chef c'est Christ. C'est le chef de l'Église. C'est celui qui dirige l'Église. C'est la tête du corps. C'est pas à vous à faire vous de votre tête, à agir selon vos pensées, vos principes. C'est pas à moi ni à vous. C'est Dieu qui conduit nos pas. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas, mais c'est Dieu qui veut diriger nos vies. Et aussi, un peu plus loin, dans le même chapitre d'Éphésiens, chapitre 1er, verset 10, « Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Tout ce qui est dans les cieux, les anges, tout ce qui est, et ceux qui sont déjà partis vers le Seigneur, hein, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont connu le Seigneur avant nous, eh bien tous nous serons réunis. Et il va les réunir tous sous un seul chef, le Christ. Voilà, c'est le plan de Dieu, c'est réunir toute sa créature, toute sa création, sous un seul chef qui est le Christ. Très important de réaliser ça. Alors, quel est le moyen, sur la terre en tout cas? Le royaume de Dieu sur la terre, comment s'exerce-t-il? Enfin, de quelle manière s'organise-t-il plutôt? On va parler simplement comme cela. Mais Dieu a une église sur la terre, mais comment est-ce qu'elle est bâtie son église sur la terre? Au travers des églises locales, c'est évident. Les églises locales sont dans le plan de Dieu. Il y en a qui pensent que l'église c'est quelque chose de très vague. C'est vrai, qui peut dire qu'on sait exactement dans la société qui appartient au Seigneur? Est-ce que c'est uniquement des personnes qui viennent dans les églises? Il peut y avoir des gens qui sont sauvés sans être dans une église. Mais la volonté de Dieu, c'est de rassembler dans des endroits différents sur toute la terre. Il y a des églises un peu partout sur la terre entière. Donc la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait des églises locales. Et on peut le voir en Apocalypse 2, 26, par exemple, Apocalypse 2, 29, pardon, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises au pluriel. Donc, Dieu aime les églises. Quand il envoie des lettres à Jean pour l'annoncer aux églises d'Asie, c'est parce qu'il aime ces églises. Il veut les exhorter. Il veut les reprendre quelquefois, parce que bon, qui aime bien châtie bien. Et Dieu parle aux églises. Apocalypse 3.6, Apocalypse 3.13, Apocalypse 3.22, la même chose, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit parle dans les églises locales. C'est pas seulement, je pense pas que un réseau sur Internet pourrait nous permettre de faire partie de l'Église. S'il y a vraiment que ce moyen-là pour être en communion avec les frères et les sœurs, Dieu utilisera ce moyen-là. Mais je pense que les rassemblements, le peuple de Dieu qui se rassemble dans une église locale, c'est le plan de Dieu. C'est pas parce que Internet existe qu'il n'y a plus besoin de se réunir en église locale. Faux. Ce serait contre le plan de Dieu. Alors, et comment cela se produit-il? Comment est-ce que l'église se produit? Comment ça se manifeste, en fait? Mais Dieu appelle. Il y a deux formes d'appel. Premier appel, c'est que tout le monde est appelé à venir à Christ. Chaque personne est appelée à Christ. Et ceux qui sont appelés, ils sont appelés aussi à appeler les autres, à annoncer cette parole qui sera une annonce d'appel à venir à Christ. Matthieu 22, verset 14 dit ceci, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Beaucoup d'appelés. Nous sommes tous appelés à venir à Christ. Tous appelés à nous convertir, à naître de nouveau, à appartenir à la famille de Jésus-Christ, tous nous sommes appelés. Il y a peu d'élus, parce que beaucoup préfèrent leurs propres intérêts, préfèrent ne pas se débarrasser de leur propre vie, et ils veulent garder pour eux, ils sont prisonniers de leur passion et ils ne veulent pas s'en dégager. Quelquefois, il y a l'ignorance, et là, nous sommes appelés à être une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Nous avons un ministère aussi par rapport à cela. Alors, il y a l'appel à un ministère don. Et là, tout le monde n'est pas appelé à recevoir un ministère don. Pourquoi? Pas que les ministères don sont supérieurs aux autres. Nous sommes tous égaux dans la famille de Dieu. Il y a l'égalité, mais il y a des ministères différents. Il y a des services différents. Pourquoi? Parce que le corps de Dieu, le corps c'est comme un corps humain, toutes les parties de notre corps n'ont pas la même fonction. Sinon, si tout était œil, tout était oreille, tout était main, ça ressemble à rien, ce corps-là. Mais hein, on aurait beaucoup de mains, on fera peut-être beaucoup de travail, mais on ne sait pas où on va, on n'a pas Dieu pour voir ce... Hein, et puis il faut un corps normal pour que ça fonctionne. Ça, c'est logique, on comprend bien tout cela. Et donc, on voit cela dans Éphésiens 4, 11, c'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Donc, il y a des dons qui ont été faits à l'Église. Dieu a fait des dons. Donc, un don, c'est quelque chose de gratuit, c'est donné. Ce sont des hommes, des êtres humains, des hommes et des femmes, qui ont été donnés pour son service d'une manière particulière. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou encore des enseignants. Donc ça, c'est des ministères dons. Et tout le monde n'a pas ce ministère don. Et celui qui veut se mettre dans la peau d'un ministère don, il va peut-être trouver que c'est... À un moment donné, il va quand même découvrir qu'il n'est pas là dans son ministère. Il vaut mieux pratiquer le ministère que Dieu nous a donné. Si c'est un ministère de louange, eh bien, appliquons-nous à la louange. Si c'est un ministère de service, diaconal ou autre, de présidence, que ce soit un service de libéralité, un service quel qu'il soit, que nous puissions, eh bien, servir. Soit au niveau du service, proprement dit, ou de la parole. Et il y a des ministères plus appliqués à la parole et des ministères plus au service. Hein, on voit des femmes, phoebées, etc., qui ont été au service de Dieu. Beaucoup de femmes ont été au service de Dieu. Beaucoup d'hommes, bien sûr. Et donc, que ce soit au niveau du service, que ce soit au niveau de la parole. Que nous puissions respecter ce que Dieu nous demande de faire. Alors, c'est Dieu qui équipe et qualifie. Je crois que dans l'église locale, c'est Dieu qui qualifie et qui équipe l'église locale. Je crois que c'est fort important. Dans 2 Corinthiens 3, verset 5, on voit ceci, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne les capacités. La capacité vient de Dieu. Le vouloir et le faire viennent de Dieu. C'est lui qui nous rend capables, qui nous qualifie, qui nous donne les capacités. Celui qui l'appelle, eh bien, il va le qualifier. Il va lui donner tous les dons dont il a besoin pour pratiquer son appel. Hein, Dieu ne manquera pas de nous donner ce dont nous avons besoin pour accomplir l'œuvre à laquelle il nous destine. Encore une autre chose, c'est qu'il confie à ses bergers son troupeau. Dieu confie son troupeau à ses bergers, au pluriel bien sûr. On a dit qu'il y avait des églises locales, donc autant d'églises locales, autant de bergers, et même plus. Plus l'église est grande, plus il faut de bergers à l'intérieur. Donc c'est tout à fait logique. Jean chapitre 21 verset 15, on voit ceci. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il avait renié 3 fois Jésus et Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes par 3 fois? Et par 3 fois, il lui dira, paix mes agneaux, paix mes brebis. C'est-à-dire que je te fais encore confiance. Tu as trébuché, tu étais maladroit, tu t'es retiré, tu as eu peur pour ta propre vie, mais moi je te fais encore confiance. Paix mes agneaux. Et donc, le berger, quel qu'il soit, eh bien, en charge de nourrir le troupeau, de faire paître, d'enseigner le troupeau. L'enseignement, c'est aussi une tâche très importante. Et de donner tout ce que le troupeau a besoin pour chacun pour sa part. Alors, les bergers, ce sont des ouvriers du Seigneur, des collaborateurs, des ouvriers qui travaillent pour le Seigneur. Ils ont la responsabilité de bâtir sur le fondement. Et le fondement, dans 1 Corinthiens chapitre 3, on voit que le fondement, c'est Jésus-Christ. C'est lui la pierre angulaire qui soutient tout le bâtiment. Et on ne peut faire que de fonder l'Église sur ce fondement-là. Si on fonde sur autre chose, ça n'ira pas. Et on voit au verset 9 du chapitre 3 de 1 Corinthiens 3, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Et donc, c'est très important de bâtir comme un sage architecte. Le sage architecte, c'est vraiment, vous savez, depuis même les temps de la Grèce antique, l'architecte, c'est celui qui conçoit un plan, pas seulement cela, qui dirige les ouvriers, qui est même capable de montrer aux ouvriers comment faire. Peut-être maintenant, chacun est tellement spécialisé que l'architecte ne sait pas exactement comment l'ouvrier va pouvoir faire ça. Mais il doit savoir comment ça se passe en conception, mais il n'est pas obligé de savoir le montrer nécessairement. Hein, parce que bon, l'architecte a son boulot, chacun son job. Mais au départ, même, il pouvait être celui qui était capable aussi de bâtir. J'ai posé le fondement, et un autre bâtit dessus. Parce que, vous savez, l'Église, c'est pas depuis le début de cette Église qu'elle existe. Hein? L'Église existe depuis la Pentecôte. Hein, la première Pentecôte, donc après la résurrection de Jésus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est pour ça que nous devons savoir si nous sommes appelés pour faire quelque chose. Il faut bien vérifier, pas se prendre pour ce qu'on n'est pas dans l'œuvre de Dieu, afin de ne pas bâtir n'importe comment. On fait pas n'importe quoi, c'est pas du gros de la grande toutouille, de la main. On mélange tout et on fait un peu n'importe quoi. Non, les choses doivent être faites selon Dieu. Nous devons vraiment, vous savez, que les serviteurs de Dieu seront jugés sur la manière dont ils ont bâti. Et le jugement de Dieu commencera par la maison de Dieu. Et c'est les serviteurs de Dieu qui vont commencer à être, c'est par eux que le jugement a commencé. 2 Corinthiens 5, verset 10, il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, sans exception, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Faisons attention, soyons avec crainte, travaillons notre salut avec crainte et tremblement de cœur. Dans le sens que Dieu est un feu dévorant et on n'agit pas n'importe comment. On n'agit pas n'importe comment dans le corps du Christ. Jacques chapitre 3 verset 1, ne soyez pas nombreux à vouloir être docteur, à vouloir être enseignant. Mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Faut pas être trop nombreux, c'est ceux qui sont appelés à ce ministère qui doivent le faire. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu veut qu'il y ait de l'ordre. C'est pas du désordre, c'est pas faire n'importe quoi. L'Église, c'est pas faire selon ses propres pensées, ses propres aspirations, ses propres désirs et faire les choses un peu n'importe comment. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 40, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. C'était à la suite des dons spirituels. Donc l'apôtre Paul devait remettre un petit peu les choses en place dans l'église de Corinthe. Au chapitre 12, au chapitre 13, il nous parle de l'amour. Il nous parle encore des dons spirituels, prophétie, etc. Dans le chapitre 14, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Tout doit se faire dans l'ordre. Colossiens chapitre 2 verset 5, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Et donc, Christ est la tête. Dieu place ses serviteurs dans les églises. Hein, quand nous voyons, par exemple, dans les 7 lettres envoyées aux églises d'Asie, au début d'Apocalypse, chapitre 2 et 3, eh bien, l'ange, Jésus envoie son message aux anges des églises, et l'ange, en fait, le messager, c'est le porte-parole, celui qui apporte cette parole au peuple, c'est les pasteurs, en fait, des églises, qui sont responsables de ces églises. Les chandeliers, ce sont les églises que Dieu a placées, et Dieu a placé un serviteur ou plusieurs serviteurs sur les églises, et c'est eux qui sont, bien sûr, responsables de ces églises, et Dieu veut que tout se fasse dans l'ordre. Tite, au chapitre 1er, verset 5, Paul dit à Tite, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui doit rester à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Et les anciens, ce sont des pasteurs. Mais c'est pas des gens, des auto-proclamés, hein. Pas des gens qui disent « Ah tiens, moi, ça, voilà, je deviens ancien de cette communauté » ou quoi que ce soit. Ce sont des personnes qui sont établies par le Seigneur. Des gens qui ont été remarqués par des gens habilités à le faire. Et on a vu là, je veux dire, la patente de Dieu, la faveur de Dieu sur la personne. On voit que cette personne, et la personne en est consciente aussi. Bon, on pourrait pas désigner quelqu'un qui lui-même n'est même pas convaincu que ce serait la volonté de Dieu. Je pense qu'à un certain moment, c'est vrai que l'humilité doit être là, mais on doit savoir aussi si Dieu nous appelle ou pas. On doit avoir une conviction, c'est ça que je veux dire. Une conviction certaine, et la conviction du corps de Christ est très importante. Donc on n'établit pas les gens n'importe comment. Ça ne se fait pas individuellement, tiens, je vais faire ça, sans demander aux responsables de faire quelque chose, par exemple, de voir si c'est, ça va dans ce cadre-là, si ça va dans la ligne de pensée de l'esprit. Les choses doivent se passer en commun. Dieu crée un corps, il a un corps, l'Église est un corps, et Dieu veut unir ce corps. Et tout doit se passer dans l'unité. Quand les choses ne se passent pas dans l'unité, ça ne vient pas de Dieu. Il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'il dit aussi, verset 6, il s'y trouve quelques hommes irréprochables, on demande des qualités, hein, à ces hommes qui vont porter la parole, s'il s'y trouve un homme irréprochable, un homme à qui on ne peut pas faire de reproche. Irréprochable. Mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Et les hommes, quels qu'ils soient, s'ils veulent aspirer à la charge d'évêque, d'ancien, d'être responsable dans l'Église de quoi que ce soit, eh bien, ils doivent être des hommes éprouvés. Donc, en général, on laisse les personnes voir comment ils grandissent, comment ils progressent. Et c'est d'après leur témoignage, le témoignage qui est rendu par rapport à l'Église, par rapport aux gens du dehors, qu'on peut voir les qualités de cette personne s'affirmer. Quelqu'un qui est appelé, c'est quelqu'un qui va aussi se sanctifier, vivre une vie la plus pure possible, la plus juste possible. Il va montrer par sa façon de vivre comment, de quoi il est habité, comment il veut marcher. Je pense que c'est très important. On peut pas simplement être un messager, avoir le message et ne pas être un message avec son comportement, avec sa façon d'être. Donc le prédicateur, par exemple, doit être un message par sa vie propre, et si pas, il faut se repentir, il faut changer de façon de vivre. On doit être ce que l'on dit aux autres, et donc c'est très important. Et ce qu'on dit aux autres doit être scripturaire aussi. On pourrait dire aussi des choses qui sont en analogie avec ce qu'on est, mais ne pas être cohérent par rapport à la parole de Dieu. Donc on doit être cohérent dans ce qu'on dit par rapport à la parole de Dieu, et ce qui est dit par rapport à la parole de Dieu doit être cohérent par rapport à ce qu'on est. Et donc, c'est là que... voilà pourquoi on sera jugé plus sévèrement que les autres. Si nous annonçons la parole de Dieu, ben on doit la vivre. Et les autres aussi, bien sûr, tout le monde, on est exhorté à la vivre. Chacun avec son ministère et sa mesure de foi que Dieu nous a donnée. Alors, il y a aussi, dans l'Église, la foi et la fidélité qui vont de pair. La foi et la fidélité, dans l'Église locale, vont ensemble. J'ai foi en Dieu, oui, c'est formidable. Mais je dois être fidèle. Je peux pas dire que j'ai la foi Parce que fides, dans le grec, on a autant la foi que la fidélité. La foi et la fidélité sont très proches, sont très liées. Hein. Comment? Fides, latin. Mais c'est très lié. La foi et la fidélité, ouais, sur la fides, sur la scriptura, sur la gratia, c'est en latin. Donc, sur la fides, donc, la foi seule et la fidélité est associée à la foi. Hébreux, chapitre 10, verset 25, on voit ceci, ne désertons pas nos assemblées dans la tombe, comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ne désertons pas nos assemblées, comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du retour du Seigneur. Plus nous avançons, et plus le retour du Seigneur est proche. Nous devons veiller à vivre une vie pure et être debout avec le Seigneur, mais avec nos frères et sœurs. Ne désertons pas nos assemblées, dit la parole de Dieu. Être fidèle dans l'Église où Dieu nous a placés, c'est un fondement. C'est un fondement. Alors, où est-ce qu'il faut être fidèle? Où est-ce que Dieu nous attend dans la fidélité? Eh bien, on le voit dans Actes 2, 46. Hein? Dans Actes 2, 46, ils se réunissaient, ils étaient tous les jours ensemble, et qu'est-ce qu'ils pratiquaient? On peut peut-être le lire. Acte 2, 46. Si quelqu'un, là, il peut le lire.
C'était chaque jour, tous ensemble, assis au temple, qui montait le pain dans la maison, et faisait de nourriture avec joie et simplicité de cœur. Nous, en Dieu, nous, en Père, sur le point du peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à la maison.
Voilà, donc, ils étaient tous les jours, prenaient leur nourriture, louaient Dieu. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et le verset 42, il y avait le verset 42 si tu veux lire aussi.
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de la
communion. Ils persévéraient, merci frère. Donc ils persévéraient dans la communion, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Nous avons une réunion de prière le mardi. Ça, c'est pour la prière. Persévérons dans la prière ensemble. Le vendredi, nous avons l'étude biblique ou les cellules. Persévérons ensemble. Soyons là, ensemble, autour de la parole. Je crois que c'est tellement important. La fraction du pain, c'est le dimanche. Soyons fidèles au culte. Et la communion fraternelle, ben, c'est tous les jours, à la limite, hein, on peut s'entraider, se téléphoner, prier les uns pour les autres, et surtout, bien sûr, la communion fraternelle, ben, c'est chaque fois qu'on se rassemble aussi. C'est là où on exerce la communion fraternelle. Si on ne vient que le dimanche, ben, la communion fraternelle est réduite au dimanche. La prière, elle est réduite à peau de chagrin. Hein, si on ne vient pas à 9h30 pour prier, c'est fort, fortement réduit. L'enseignement, bon, ben, on a l'enseignement de la parole de Dieu le dimanche, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant et nous avons besoin d'être ensemble pour progresser. Nous avons besoin d'être ensemble pour progresser. Être fidèle là où Dieu nous a placés. Jésus veut nous associer à son équipe. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Tous ensemble, nous sommes des ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Nous sommes ouvriers avec Dieu, les uns avec les autres. Main dans la main, comme du temps de Néhémie ou Esdras. Hein, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Pour construire ensemble selon Dieu, il nous faut aussi certaines qualités. Les qualités morales que Dieu désire à l'intérieur de nos cœurs. Et les qualités qu'on voit dans Philippiens chapitre 2, il y a quelques qualités qui nous sont données, à partir du verset 2. « Alors rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Et donc, les qualités morales qui nous sont demandées dans ce passage, c'est l'humilité. Rechercher les intérêts du royaume de Dieu et non les nôtres, être d'un même cœur, d'une même âme et d'une même pensée. Et la pensée, elle se modifie. Vous savez comment? La pensée, elle se modifie par l'enseignement. C'est pour ça qu'il faut être ensemble souvent pour recevoir les enseignements. Parce que sinon, on peut avoir des enseignements très différents, ça dépend, ou ne pas les connaître, être dans l'ignorance de beaucoup de choses et ne pas être un. Et ça, c'est très important. Si nous voulons grandir, l'œuvre de Dieu dans l'Église, c'est la croissance. Il vise la croissance, que nous soyons mis à la ressemblance du Christ. Donc, au travers du perfectionnement des saints qui se fait au travers des ministères. Les cinq ministères qui sont les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres. Et au travers des ministères, Dieu veut façonner nos vies au travers de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui façonne nos vies. Mais au travers des ministères. Afin que nous soyons capables de servir Dieu. Le but, c'est de nous rendre capables d'être à son service. Et de travailler en collaboration les uns avec les autres. C'est pas du travail d'ermite, c'est pas du travail des uns de chacun de son côté, mais ensemble, il y a une dynamique que Dieu veut installer en nous associant les uns avec les autres. Des choses, c'est aimer l'Église aussi, bien sûr, comme Jésus a aimé son Église, il s'est donné, il s'est livré pour son Église. Nous aussi, Dieu nous demande de nous livrer pour l'Église, parce qu'elle est belle, elle est vraiment son épouse, fiancée, c'est son épouse, hein. On célébrera les noces de l'agneau dans le ciel. Et bien sûr, l'attitude doit être de rechercher la gloire de Dieu. L'attitude profonde que nous devons avoir dans nos cœurs, c'est la gloire de Dieu. L'Église locale doit donc rechercher la gloire de Dieu. L'Église universelle, vous allez dire, hein. Mais l'Église locale, c'est la manière de visualiser comment est-ce que nous pouvons réaliser l'Église universelle si nous ne sommes déjà pas fidèles dans notre propre Église locale. C'est là une vision miniaturisée, je vais dire, du corps de Christ. Mais c'est d'abord dans cette vision-là que les choses se passent. Puis bien sûr, il y a le corps de Christ qui est sur la terre entière. C'est pour ça que nous prions pour les chrétiens persécutés notamment, et tous nos frères et sœurs dans le monde. En conclusion, soyons humbles et soumis à notre grand modèle. Jésus, il est le modèle divin. Soyons soumis à lui et à sa parole. Nous puissions accomplir sa volonté avec la foi que Dieu nous a donnée, les capacités qui sont les nôtres, que nous puissions être assidus aux réunions afin de grandir dans le Seigneur, de nous affermir, d'être forts et de pouvoir accomplir les uns avec les autres, en communion, en collaboration, les uns avec les autres, l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle ensemble. Dieu nous appelle ensemble à accomplir un travail. C'est ensemble. C'est pas chacun de notre coin, des œuvres de ci, des œuvres de là, mais c'est ensemble. Et je crois que c'est fort important. Même si il peut y avoir des missions qui sont différentes, qui sont données aux uns et aux autres, il y a quand même un travail et l'Église locale doit s'exercer comme une ruche. Comme une ruche, exactement comme une ruche. Il y a un travail qui se passe un peu comme dans une ruche. Et que le Seigneur nous aide à être comme les abeilles du Seigneur, à accomplir, à protéger la ruche et agir, à les butiner, à les travailler, à porter cette parole à l'extérieur et à venir s'enrichir à l'intérieur. Que le Seigneur puisse nous aider à communiquer cette pensée-là aussi, à nous entretenir sur, sur cette parole qui nous a été annoncée. Comment Jésus construit-il sa maison, l'Église? Il veut nous aider. Il veut nous aider. C'est peut-être un rappel pour certains, mais que le Seigneur puisse nous aider à travailler dans ce sens-là. Nous allons prier quelques instants. Seigneur Père, merci Jésus. Nous voulons, comme il a été dit tantôt, regarder à toi et voir aussi ton Église locale, Seigneur. Nous voulons travailler en équipe, ensemble, avec une même vision, avec un même cœur, une même pensée, une même âme, une même manière de regarder, afin que le plan que tu as pour cette Église s'accomplisse. Seigneur, nous voulons aimer l'Église locale et apprendre à utiliser tous les dons que nous avons pour faire en sorte qu'il soit enrichi considérablement par nos témoignages, le témoignage à l'intérieur, le témoignage à l'extérieur de l'Église, pour que d'autres personnes puissent s'y ajouter et qu'on puisse voir une Église glorieuse qui va de l'avant, qui reflète ta gloire. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'accomplir ta volonté. Nous voulons pas perdre de vue non plus l'Église universelle, parce que l'Église locale, c'est une petite branche ou un grand arbre. Alors, nous voulons vraiment te remercier de nous avoir placés où tu nous as placés, que nous puissions prospérer et accomplir ta volonté, là où tu nous l'as montré. Merci Seigneur.